And where there are films, there's Locarno.
Hi, Locarno. Buongiorno. No, buonasera. Bonsoir. Hello.
Bonsoir, bienvenue dans un monde nouveau, le magazine des projections. Nouveaux genres, nouveaux imaginaires, nouvelles vagues et nouvelles chances. Pour son grand retour, le Festival international du film de Locarno explore tous les cinémas d'aujourd'hui et de demain. Son nouveau directeur, Giona Nazzaro, veut en faire un laboratoire tourné vers le futur de l'image en mouvement. Il est notre premier invité ce soir. Et après Gaspard Noé et Bertrand Mandico, hier, place aux réalisatrices. En compétition avec Petite Solange, Axelle Repère s'aventure sur un champ émotionnel encore inexploré dans le cinéma français, le chagrin d'une adolescente de 13 ans confrontée au divorce de ses parents.
C'est une histoire triste avec des personnages que t'es heureux de connaître en fait.
La jeune et touchante Jade Springer quitte les rivages de l'enfance et le territoire de ses illusions. Un mélo d'aujourd'hui avec Léa Drucker et Philippe Catherine. Les liens qui se distendent et ceux qui se créent au-delà ou malgré les apparences, avec La place d'une autre en compétition également. Aurélia Georges met en scène un trio d'actrices impeccables, Lina Koudry, Maud Villers et Sabine Azéma.
Comment est-ce que vous savez tout ça ?
Des actrices et acteurs, des réalisatrices, un directeur de festival et surtout des films. Encore et encore, un monde nouveau à Locarno. Deuxième prise, c'est parti.
France Inter. Sonia Chironi. Un monde nouveau.
So badly, no, I never wanted more. Oh, I've never wanted
Tonight, Tonight, extrait de Not Your Muse de la chanteuse britannique Céleste. Après le succès mondial de son premier morceau Stop This Flame, la jeune artiste revient avec un premier album studio soul et intimiste en partenariat avec France Inter. Cinéma is back, c'est la devise du Festival international du film de Locarno cette année, d'où nous sommes en direct ce soir à l'Institut Santa Caterina, grâce aux moyens de la RSI, la radio-télévision suisse-italienne qui nous accueille dans ses studios, et on l'en remercie. Locarno est de retour donc après une année manquée pour cause de pandémie, une 74e édition très attendue et qui tient toutes ses promesses. À Locarno, on célèbre le cinéma d'aujourd'hui et de demain, du plus pointu au plus grand public. Tous les cinémas sont à l'honneur pour que la fête soit totale. Et on est très heureux d'accueillir ce soir sur France Inter le nouveau directeur du festival, Diona Nazzaro. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Cette 74e édition, c'est vraiment celle du renouveau, non seulement bien sûr parce que c'est le retour des projections avec du public, notamment sur la sublime Piazza Grande, cinéma ouvert où sont projetés chaque soir devant 5000 spectateurs des films Sous les étoiles, mais aussi parce que sous votre impulsion, Diona Nazzaro, le festival se veut plus ouvert et tourné vers l'avenir que jamais. Vous aviez l'embarras du choix pour cette édition 2021, l'année des films en stock, hein, malheureusement. Vous en avez sélectionné 17 pour la compétition officielle. Comment vous avez fait pour choisir dans cette offre pléthorique?
Entre guillemets, ça a été très simple. On s'est laissé séduire et guider par le principe de plaisir. On a pensé avec le comité de sélection que vu qu'on avait l'opportunité de renouveler un dialogue avec le public, on voulait que ce soit un dialogue ouvert, franche et ouvert aux surprises et aux découvertes. Donc on n'a pas essayé d'être plus malin que les autres, on a essayé un programme qui puisse parler au plus port des gens. Je dis toujours, on avait envisagé un festival populaire, mais pas populiste. Pas un peu de tout, mais quelque chose d'ici, quelque chose de là. En essayant d'être populaire et pointu.
Eh oui, Locarno a toujours été le rendez-vous des cinéphiles, promouvant un cinéma d'auteur et de qualité, mais vous voulez aussi qu'il soit le plus ouvert, le plus populaire possible, avec une réelle envie de décloisonner les genres, les mondes, les publics. Comment on fait pour trouver le point d'équilibre?
C'est la mise en scène et le regard de les réalisateurs, de le terrain commun entre tous les films. Bien sûr, il y a une certaine distance entre le nouveau projet de Joaquin Pinto et Nuno Leonel, qui dure presque 11 heures, partagé en 3 films, Pathos et Dos Logos, et certains d'autres films qu'on a présentés. Mais c'est ce que fait l'individualité, la personnalité et la singularité des différents films. C'est le regard et le principe de la mise en scène. Donc, c'est ce qu'on a essayé de chercher était de l'approche, la singularité, car c'est seulement sur ces éléments-là que j'imagine qu'on puisse activer une conversation, un dialogue.
Vous avez décidé de rendre cette année un hommage particulier à une actrice française, Laetitia Casta, qui a reçu un Excellence Award pour l'ensemble de sa carrière. On va l'écouter, Laetitia Casta, très émue après la remise de ce prix.
C'est très touchant parce que ça récompense pas seulement le travail d'un rôle, ça, c'est plus profond. Je trouve qu'il y a un regard qui est posé sur un chemin, ce qui veut dire que parfois, la difficulté des choix, des doutes, tout ça est englobé dedans et c'est très encourageant, je trouve.
Pourquoi avez-vous choisi de récompenser le travail de Laetitia Casta cette année?
Le choix a été très simple, car en Laetitia Casta, je reconnaissais certaines choses que je voulais que auxquelles le Festival de Locarno puisse ressembler. C'est-à-dire une icône populaire qui s'est mise toujours en discussion, qui a toujours relevé de défis, qui a su se renouveler, qui a su parler avec le grand public, mais aussi instaurer de collaboration, de discussion très profonde avec des réalisateurs très radicaux et novateurs. Et en même temps, elle a su aussi réinventer par rapport à d'autres formes d'expression qui ne sont pas seulement le cinéma, mais aussi le théâtre. Et donc là, je dis que s'il y avait une image à laquelle je voudrais que le festival de Locarno puisse ressembler, c'était celui-là. Et en même temps, je dois dire qu'en tant qu'Italienne, Letizia Questa me rappelle la beauté de certaines actrices du cinéma italien du passé, quand le cinéma italien était le cinéma italien qui faisait rêver tout le monde. Donc, quand je regarde Letizia, quand je vois Letizia Casta, je pense à Marisa Lasio, Gianna Maria Canale, mais aussi Sofia Loren, Silvana Mangano, Eleonora Rossi Drago. Je vois là une filiation. Et c'est ce qui m'a guidé aussi, c'est cette phrase de Andy Warhol qui disait que la beauté, c'est un signe d'intelligence. Mm.
Les films français sont bien représentés cette année à Locarno. Il y a eu la projection de Vortex, le dernier film de Gaspard Noé, le dernier film très attendu également de Bertrand Mandicot, After Blue, Paradis Sale, qui a électrisé le festival où il est présenté en compétition officielle. On recevait hier dans l'émission les deux réalisateurs. Un mot sur chacun d'entre eux.
Alors, Gaspard Noé, je suis profondément admiratif de sa façon de se mettre en discussion. C'est une filmographie qui change à chaque film. Et j'adore la façon dont Gaspard nous pose des questions sur le cinéma, l'image. Là, c'est ce que ça veut dire être un réalisateur. Mmh. Et je trouve ça hyper marrant comme on le mal comprend à chaque tour. Je trouve ça génial de sa part de faire que les gens ne puisse toujours donner les mauvaises réponses. Je trouve ça génial de sa part. Et je trouve ça une véritable stratégie presque situationniste. J'ai adoré, par exemple, la promotion de son film, je pense, Climax. Quand il disait, vous avez détesté ça, vous savez, je trouve ça génial. Bertrand Mandicot, j'ai le privilège de pouvoir appeler Bertrand un ami. On a présenté à la Semaine de la Critique de Venise Le Garçon Sauvage. Je pense que Bertrand Mandicot garde dans ses yeux le secret de Méliès, le secret de grands réalisateurs surréalistes. C'est un génie qui est regarde au futur du cinéma en mettant en relation le cinéma de genre italien, l'expérimentation de Stan Breckage, les intuitions sur le futur du cinéma de Méliès et avec un regard qui est l'incarnation de ce qu'on veut du cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire un cinéma libre, fluide, inclusif, novateur et éversif.
Les réalisatrices sont également bien représentées cette année à Locarno et nous recevons ce soir dans la deuxième partie de l'émission Axel Roper et Aurélia Georges, deux réalisatrices françaises, elles aussi en compétition officielle avec Petite Solange et La Place d'une Autre. Alors là aussi, hein, dans des registres très différents, qu'est-ce qui vous a plu chez chacune d'elles?
Alors, Axel Roper, c'est une véritable poétesse. Mmh. Et quand on a vu avec le comité de sélection Petit Solange, ça m'a profondément bouleversé la délicatesse à travers laquelle elle a réussi à raconter l'âme d'une adolescente sans être jamais condescendant ou jouer au chantage émotionnel avec le spectateur. Il y avait une respect profond de la dignité de cette fille et qui m'a vraiment surpris. Et le petit référence à l'univers de Jacques Demy, notamment dans la ville de Nantes, mmh. avec de petites touches de détails. Et je suis vraiment, j'adore le cinéma de Jacques Demy. Et là, j'ai vu aussi une respect de jouer avec ça, mais subtilement, sans le manifester ouvertement.
Et Aurélia Georges?
Aurélia Georges, je trouve ça, c'est un film super politique. C'est La Place d'une Autre, c'est le contre-champ d'un moment très douloureux de l'histoire de l'Europe et de la France en particulier, quand tous les hommes étaient au front dans ces boucheries de la Première Guerre mondiale. Et il y avait de l'autre côté les femmes qui restaient hantées par les fantômes de la présence du pouvoir des hommes qui n'est pas là, mais qui quand même est là. Mmh. Et ces femmes sont, d'une certaine façon, hantées par cette vide de pouvoir qui pose leur des questions. Et je trouve la façon ultra-moderniste dans laquelle Aurélia Georges joue avec la tradition du film en costume, le film de femme, et en même temps en créant entre chacun de ces éléments-là des micro-distances, qui est exactement l'espace de la mise en scène.
Et on va parler en détail de ces deux films avec les deux réalisatrices qui vont nous rejoindre dans un instant. Dernière question, un festival résolument tourné vers l'avenir, disais-je. Vous avez choisi, Diona Lazzaro, d'ouvrir le festival avec la projection en avant-première mondiale de Beckett, deuxième long-métrage de l'Italien Ferdinando Cito Filomarino, un film qui sera diffusé le 13 août, non pas en salle, mais sur Netflix. Quel message avez-vous voulu faire passer avec ce choix dont vous saviez forcément qu'il serait très commenté ?
C'est très simple. L'écosystème audiovisuel du cinéma est en plein changement. Le message, c'est que Locarno est un endroit où on n'a pas peur de confronter c'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui est en train de changer. Et il y a de nouveaux acteurs dans cet écosystème. Et
vous n'avez pas peur du monde nouveau ?
C'est ça.
Merci beaucoup, Diona Lazzaro, d'être passée nous voir ce soir dans un monde nouveau sur France Inter. Bon festival.
Merci et merci pour cette opportunité de conversation.
Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi, ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco si en plus elles sont costauds.
Ta peur de fille, elle se transforme.
Elle prépare un sale coup, Peur des filles, issue du dernier album du groupe pop L'Impératrice, Tako Tsubo, en partenariat avec France Inter. Dans le dernier film d'Axel Roper, Petite Solange, ce sont plutôt les parents qui font les sales coups. Aurélia et Antoine se séparent après 20 ans de mariage et 2 enfants. Une banale histoire de divorce, sauf que la réalisatrice choisit cette fois d'adopter le point de vue des enfants, et en l'occurrence, celui de Solange, 13 ans, une jeune adolescente gay et tendre qui va voir son monde basculer. Bonjour Axel Roper.
Bonjour.
C'est le 2e film que vous présentez en compétition à Locarno après La Prunelle de mes yeux en 2016. Revenir à Locarno, ici retrouver le public après ces longs mois de fermeture des salles obscures, c'est une double joie pour vous d'être ici aujourd'hui à Locarno ?
C'est un sentiment de grande joie, et pas tellement à titre individuel mais vraiment à titre collectif, parce que le cinéma a été tellement mis sous cloche cette année, tellement malmené et martyrisé, que revoir à nouveau du public en salle et des projections sur grand écran, c'est absolument merveilleux.
Petite Solange, c'est donc une histoire à la fois tristement banale et universelle, celle d'une famille qui éclate avec la séparation donc des parents. Pourquoi avoir choisi de montrer le point de vue de l'enfant, sachant que le parti pris est vraiment tenu du début jusqu'à la fin? Les parents, qui sont incarnés par Léa Drucker et Philippe Catherine, sont presque des personnages secondaires. Dans le film, l'héroïne, c'est vraiment Solange, qui est incarnée d'ailleurs par une jeune actrice formidable, Jade Springer.
C'est justement parce que c'est un parti pris inédit que ça m'a passionnée. Et évidemment, le divorce est un sujet totalement banal, mais c'est cette banalité en fait qui m'a intéressée. Ce qui est banal pour nous adultes ne l'est pas du tout en fait pour un enfant. Voilà, ce qui pour nous est un événement presque, comment dire, récurrent de nos vies, pour un enfant en fait c'est un Titanic qui sombre, la séparation de ses parents. Et en réfléchissant un petit peu à ça, je me suis aperçue qu'en fait raconter un divorce du point de vue d'un enfant est quelque chose qui n'avait jamais été fait au cinéma, très curieusement, raconter vraiment par le menu, par le détail, tout ce que l'enfant ressent, tout ce qu'il comprend pas, tout ce qu'il finit par comprendre, tout ce qu'il déchire, tout ce qu'il projette, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu au cinéma. Et quand j'ai découvert ça, évidemment, ça m'a passionnée. Je me suis dit, mais il faut le faire, quoi. Il faut faire ce film.
Alors, ça avait pourtant bien commencé. On écoute tout de suite un extrait.
Passionnant.
Un petit peu d'attention, s'il vous plaît. Merci à tous d'être là aujourd'hui.
C'est nos 20 ans de mariage, aujourd'hui. Oui. N'ayez pas l'air surpris.
Petit discours.
Je confirme, 20 ans de mariage. Ma première rencontre avec toi, Aurélia. Nos premières années seulement tous les deux. Et puis la naissance de Romain, il y a 21 ans. Un petit garçon sérieux, ténébreux, souvent inquiet et difficile à dériver. Nos années avec un petit garçon, donc, et puis l'arrivée de Solange. Joyeuse, turbulente, bruyante même, ça c'est Solange. C'est Solange. Un garçon ténébreux, hein, une fille pleine de vie, eh bien, ce sont nos enfants qui nous ressemblent, bah, absolument pas. Oui, les enfants qu'on a fait, ça, il n'y a pas de doute. Aurélia et moi. Des enfants qui sont comme des mondes. Des mondes à part entière.
Ça va, papa?
Merci d'être là.
Petite Solange, le dernier film d'Axel Roper en compétition ici au Festival de Locarno, qui va sortir en salle le 6 octobre prochain. Dans cette scène du début du film, Axel Roper, la fête des 20 ans de mariage, il y a déjà tout, les jours heureux, mais on sent déjà dans le sourire un petit peu crispé d'Aurélia, la mère qui est donc jouée par Léa Drucker, dans le discours maladroit du père Antoine, on sent déjà les ferments de la dissolution à venir.
Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie, c'est les mélanges. C'est-à-dire que moi, j'aime la grande joie dans la vie, mais quand il y a toujours une espèce d'inquiétude comme ça qui parcourt et qui veine un tout petit peu les scènes. Et j'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, vivre, c'est apprendre à connaître l'inquiétude et à vivre avec ça. Et en fait, dans le film, il y a une espèce d'inquiétude comme ça qui parcourt toutes les scènes, qui a à voir avec qu'est-ce que c'est que le dur métier de vivre. Et c'est vrai que dès le début du film, il y a une espèce d'inquiétude qui rôde et qui va se déployer ensuite jusqu'au final du film.
Ce film, c'est aussi un subtil portrait d'une jeune adolescente d'aujourd'hui, ses joies, ses peines, mais aussi ses révoltes. Il est notamment question dans une scène de l'admiration de Solange et de sa copine pour Greta Thunberg. Vous qui avez grandi dans les années 80, quel regard portez-vous sur cette nouvelle génération des filles d'aujourd'hui ?
Alors, un regard très passionné et à la fois très amusé sur les filles d'aujourd'hui que je trouve absolument drôle, vivifiante, tonique. J'ai une petite fille de 10 ans et elle est déjà une passionnariat, voilà, de la cause féministe. Et je trouve ça vraiment merveilleux parce que nous, adolescentes, on était, rétrospectivement, je me rends compte qu'on était quand même dociles et qu'on était un petit peu coincés et qu'il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui avec les jeunes filles. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé de raconter aussi qu'est-ce que c'est qu'une fille d'aujourd'hui qui a des espèces de causes un peu romantiques qui paraissent naïves aux yeux des adultes, mais en fait, elles ont profondément raison. Voilà, c'est elles qui ont raison pour ce qui va se passer dans le monde dans les 30 ans à venir.
Solange, dans le film, elle est aussi très seule. Son grand frère s'en va, elle doit porter non seulement sa propre douleur, mais aussi celle de sa mère. Le père s'affiche maladroitement avec sa nouvelle petite amie. Les parents sont quand même assez défaillants dans cette histoire. En tout cas, tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ont bien du mal à être présents pour leur fille. C'est aussi ça que vous avez voulu montrer.
J'ai voulu montrer que grandir, c'est apprendre la solitude, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on est dans une bonne famille, une famille aimante, on a un petit peu l'impression naïvement qu'on va faire corps toute sa vie avec des gens qui vous aiment autour de soi. Et que vraiment, le premier grand choc dans la vie, c'est comprendre qu'en fait, que la solitude fait partie de la vie, qu'à un moment donné, il va falloir affronter ça. Et cette petite Solange, elle est très amoureuse de sa famille, elle est très candide, elle est très naïve, et tout d'un coup, par une suite de circonstances pas terrible, mais quotidienne, elle va se retrouver seule. Et c'est ça qui m'a intéressé, raconter l'émergence de la solitude, même dans une famille très aimante.
Dans vos précédents films, La famille Wahlberg et Tirez la langue, mademoiselle, vous exploriez déjà cette thématique du délitement de la cellule familiale. Ça vous paraît être un fait structurant de notre société d'aujourd'hui ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, je suis de la génération des enfants et adolescents des années 80. Et rétrospectivement, je me rends compte qu'on a vécu de plein fouet un phénomène qui est passé inaperçu, qui est un phénomène de masse, mais très subtil, qui est vraiment la décomposition des familles. C'est-à-dire que nos grands-parents restaient mariés toute leur vie et nos parents se sont mis à divorcer en masse. Je pense qu'ils ont eu raison, d'ailleurs. Je pense qu'il vaut mieux, c'est bien d'avoir plusieurs histoires d'amour dans sa vie. Mais que ce phénomène, à l'époque, évidemment, on était trop jeunes, on l'a subi, on l'a pas du tout analysé et que peut-être avec 30 ans plus tard, il y a quelque chose qu'on, nous, dans notre génération, on peut raconter. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la famille en soi, c'est qu'est-ce que c'est qu'apprendre à vivre et à grandir. Voilà, c'est ça qui m'intéresse.
La nouvelle vague est une référence absolue pour vous, Axel Roper. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si vous avez tourné le film à Nantes, la ville de Jacques Demy. Pour vous, la nouvelle vague, c'est toujours, aujourd'hui, en 2020, résolument moderne.
Alors pour moi, sans la nouvelle vague, il n'y aurait pas de cinéma français. Voilà, moi je vais beaucoup au cinéma et je trouve que le cinéma français est un des cinémas les plus puissants artistiquement au monde. Mais je suis convaincue que si la nouvelle vague n'avait pas été là, on aurait des films très casaniers, très pépères et qu'on a une dette éternelle envers la nouvelle vague. Donc cette dette, moi j'ai vraiment voulu l'inscrire dans le film et y répondre. Et puis aussi, en tant que réalisatrice, j'avais hyper envie de montrer que les femmes réalisatrices sont cinéphiles et ont une idée de l'art, une idée du cinéma, et qu'on peut raconter ça aussi dans nos films. Voilà, l'amour du cinéma, et que cet amour-là, les femmes réalisatrices peuvent s'en emparer. On n'est pas obligé de le laisser au seul homme réalisateur.
Un petit mot sur la musique du film, pour terminer, Axel Roper. Il y a un titre qui revient plusieurs fois dans le film, un titre italien. Vous pouvez m'en parler ?
Alors, le film n'est pas du tout un drame psychologique. Hein. En fait, c'est un mélo, c'est-à-dire que c'est pas du tout un film au ras des pâquerettes. Il fallait que ça décolle tout le temps. Il fallait chercher les excès, il fallait chercher les pleurs. Et pour ça, la musique, évidemment, dès qu'on entend une chanson qu'on aime, au bout de 30 secondes, on peut avoir les larmes qui viennent aux yeux. C'était un peu ça, notre idée d'utiliser la musique. Et on a volontairement utilisé le côté un peu rengaine. Moi, j'adore les musiques qu'on entend 50 fois par jour et qui nous font de l'effet. Donc, on a travaillé une espèce de plusieurs rengaines musicales dans le film. Et il y a notamment une chanson napolitaine très ancienne, alors qui appartient même, je sais pas, à un siècle révolu. Et dès que cette chanson retentit, il y a quelque chose qui vibre. Voilà, c'est très étonnant. Donc, on a utilisé plusieurs fois cette chanson napolitaine.
Et Antoine, le papa, raconte, explique à sa fille les paroles de la chanson. Il lui explique que c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a jamais connu son père.
Moi, j'adore les enfants, les enfances malheureuses. Voilà, je trouve que c'est un sujet éternel et bouleversant. Les enfants qui n'ont pas eu le chance d'être aimés et d'être entourés. Et donc, c'est vraiment un fil, le malheur des enfants qui parcourt tout le film.
Merci beaucoup, Axel Robert. Petite Solange, donc c'est votre dernier film en compétition ici au Festival de Locarno et ça sort en salle donc le 6 octobre prochain. My heart is in show. Roger Moore, hommage à l'acteur qui interpréta James Bond 7 fois entre 1973 et 1985 avec ce morceau éponyme de l'artiste Rover, issu de son 3e album studio Highscaler, en partenariat avec France Inter.
France Inter. Un monde nouveau.
Retour à Locarno en direct du Festival international du film après Axel Roper. Voici une deuxième réalisatrice française dont le dernier film est sélectionné ici en compétition officielle. Décidément, les Françaises ont la cote et c'est tant mieux. Bonsoir Aurélia Georges.
Bonsoir.
Vous présentez La Place d'une autre, votre 4e long métrage adapté librement du roman The New Magdalene de Wilkie Collins, publié en 1873. Vous êtes accompagné ce soir dans le studio de deux de vos acteurs, Maud Villers, bonsoir.
Bonsoir.
Et Laurent Poitrenot, bonsoir.
Bonsoir.
Dans ce film, Aurélia Georges, vous nous racontez l'histoire de la jeune Nelly, interprétée par Lina Koudry, c'est César du meilleur espoir féminin en 2020 pour Papicha. Nelly est une fille de lingère, née de père inconnu, qui a échappé à une existence misérable en devenant infirmière pour la Croix-Rouge sur le front en 1914 et qui, un jour, va prendre l'identité de Rose, une jeune femme de bonne famille, interprétée par vous, Maud Villers, qui va mourir sous ses yeux. Et alors là, Nelly décide de prendre sa place et de se faire passer pour elle auprès d'une dame de la grande bourgeoisie, interprétée par Sabine Azéma, chez laquelle Rose devait se rendre pour être sa lectrice. Qu'est-ce qui vous a intéressée en tant que réalisatrice dans cette histoire, Aurélia Georges?
C'est vrai que c'est une histoire à tiroir, ou en tout cas qui réserve des surprises. Mmh. Et je crois que la toute première chose, ça a été le plaisir de lecture. C'est adapté d'un roman anglais de Wilkie Collins. Et la première chose, ça a été le plaisir de lecture. Et puis ensuite, la profondeur de ce récit, parce que je trouve agréable que quelque chose qui soit comme ça à rebondissement. Je suis pas une grande lectrice de films de livres à suspense du tout. Donc peut-être que voilà, le premier bon que j'ai trouvé m'a semblé miraculeux. Mais c'est vrai que avoir un grand plaisir et en même temps avoir la sensation que quelqu'un nous parle de quelque chose qui nous fait réfléchir, en tout cas moi ça me plaît beaucoup. Et cette histoire autour de la question de la confiance, de l'authenticité, de la vérité, de la confiance en fait, de la parole, mmh. de la parole, ça m'a beaucoup plu.
Alors Nelly joue à merveille son rôle de Rose, et c'est ce qui nous a beaucoup plu dans ce film, c'est effectivement votre maîtrise du suspense, parce que sous la légèreté comme ça apparente, il y a une extraordinaire tension qui va s'installer peu à peu jusqu'à en devenir quasiment insoutenable. On tremble pour Nelly qui craint d'être démasquée, surtout quand le passé va refaire surface dans une scène mémorable. Vous avez aimé jouer avec nos nerfs?
Ah oui, bien sûr, oui, je suis ravie que ça ait marché comme ça sur vous si fort. Bah oui, c'est le but, bien sûr. C'est le but qu'on tremble un peu et même beaucoup si possible. Enfin, voilà. Donc oui, j'ai aimé ça. Ouais. C'est vrai que j'ai d'illustres prédécesseurs. Enfin, j'adore le cinéma d'Hitchcock et c'est jamais que du suspense, je trouve. Chez Hitchcock, c'est toujours il y a toujours quelque chose d'assez mystérieux dans ces figures, ces personnages. Alors, sûrement que ma cinéphilie m'a entraînée dans cette aventure-là.
Et on va écouter tout de suite un premier extrait du film.
Ça, on peut le manger.
Ça ?
C'est de la Circe. La feuille est remarquable, n'est-ce pas ? Je voudrais la dessiner.
Je demanderai à Honorine de venir en ramasser. Mais comment est-ce que vous savez tout ça ?
Je l'ai appris d'une femme de la campagne. Quand nous étions en Sicile avec mon père.
Oh, si, si. J'ignorais que votre père avait été en poste là-bas. Oh, quelle vie vous avez eue.
On y danse la tarentelle. Vous savez?
Mais oui, j'ai un livre de gravure à la bibliothèque. On y voit exactement cette pose.
Ah oui.
Extrait de La Place d'une autre présentée en compétition officielle ici à Locarno, Maud Villers. Comment avez-vous abordé ce rôle de Rose, la vraie Rose, qui est victime d'une terrible usurpation d'identité?
Je l'ai abordé avec rage, avec une intranquillité, parce que quand je lisais le scénario, je prenais un parti, puis après en jouant, je prenais un autre parti, puis encore en regardant le film hier dans la salle. Je changeais. J'aime bien que ce film nous renvoie à notre propre intimité, à des questions comme ça de d'éthique, de vérité. Et je trouve que ça rend le spectateur assez actif. Il peut se demander, mais alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Et hier, d'ailleurs, dans la salle, il y avait des gens relativement en colère qui ont dit, cette dame qui a trouvé qu'elle avait été justement, comme vous, assez malmenée par le récit.
C'est exactement ça, parce que vous réussissez, Aurélia Georges, à mettre le spectateur dans une position inconfortable, parce qu'on a de la peine pour la pauvre Rose qui est victime d'une injustice incontestable. Merci. Mais on est aussi dans une empathie très forte avec Nelly, l'usurpatrice. On oscille en permanence entre l'une et l'autre. Vous avez joué avec ça?
Oui, c'était un peu le but du jeu. Il fallait jamais perdre ni l'une ni l'autre. Il fallait garder l'empathie pour chacune à certains moments, ou la récupérer, en tout cas, si on la perdait momentanément. En tout cas, oui, ne jamais la perdre complètement, parce que le film suit ces trois personnages féminins. D'ailleurs, il en va de même de Madame de Lengville aussi, je trouve. Et c'est vrai que parfois, on a la sensation qu'on doit prendre parti pour l'une ou pour l'autre. Et je crois qu'en fait, non, c'est justement dans cet indécidable qu'il est intéressant d'arriver à se situer. Et non, il n'y en a aucune des deux qui a complètement tort ou qui faudrait jeter en prison ou vouer aux gémeaux, ou qui n'aurait que des qualités. Et non, les deux ont leur mot à dire, leur partition. Et ce qui est bien, c'est d'arriver à aimer les deux ou à comprendre les deux, oui, dans chacun de leurs gestes.
Alors vous aussi, Laurent Poitrenaud, vous êtes dans une certaine ambivalence. Vous jouez le rôle de Julien, le neveu de Madame de Lengville, donc interprété par Sabine Azéma. Un rôle tout en nuances, parce qu'on vous sent séduit, d'abord, par Nelly, ne le niez pas, on l'a bien vu, mais en même temps, vous êtes le premier à avoir des doutes sur sa véritable identité.
Oui, il est troublé, parce que c'est vrai qu'en plus, et le personnage, est, comme on l'interprète Lina Coudry, il y a beaucoup d'opacité, donc ça crée une surface de projection et de rêverie, où chacun finalement projette ce qu'il a envie de projeter. Et finalement, oui, il recherche la vérité, mais finalement, il recherche la vérité qui l'arrange au final, parce que je vais pas raconter lui, mais voilà. Il cherche la vérité, mais sa vérité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Il y a une dimension presque politique dans le film. C'est ce que nous disait Gianna Nazzaro, le directeur du festival, qui était dans le studio juste avant vous. Il a parlé d'un film véritablement politique, un film de femmes, où il y a des personnages masculins, évidemment, mais où on sent très fortement, où pèse sur les épaules de ces femmes, l'absence des hommes, évidemment, sur fond de Première Guerre mondiale.
Oui, c'est des femmes qui doivent se débrouiller, chacune à sa façon, chacune avec son histoire. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas besoin des hommes, voire même les hommes leur ont parfois mis des bâtons dans les roues. Donc ça, c'était assez intéressant de raconter une histoire au scénario. L'histoire d'amour ou une histoire d'amour aurait pu prendre plus de place. Et puis on s'est dit non, c'est pas le problème de cette héroïne en tout cas. Et j'aime bien que finalement, elles doivent vraiment se débrouiller, trouver leur chemin, tout ça comme des grandes filles toutes seules, quoi.
Et Laurent Poitrenaud, vous avez eu le sentiment de jouer dans un film de femme?
En tout cas, c'est agréable d'être un des rares hommes dans un film de femme, oui. Mm-hmm. Parce qu'en général, c'est quand même plutôt l'inverse. Donc c'est bien que ça change. Et faire partir de ce projet, c'est passionnant. Et surtout, vous parliez d'ambivalence pour le spectateur. Et en ça, je trouve qu'aussi, c'est politique. C'est qu'en ce moment, on n'est pas dans une époque où l'ambivalence et où la complexité est bienvenue. C'est soit t'es du côté du bien, soit du côté du mal. Soit tu as tort, soit tu as raison, mais alors le rapport à la complexité, on l'oublie. Et je trouve qu'en fait, ça place les spectateurs exactement comme je pense des gens de la société peuvent se trouver lorsqu'ils sont jurés dans une zone cour d'assises, entre ce qu'on voit à la télé, ce qu'on nous propose comme récit, et puis finalement quand tu te retrouves dans la réalité d'un procès et que tu dois prendre une décision, je pense que ça place les spectateurs du film exactement dans la même position où d'un seul coup le réel revient et là c'est plus complexe. Et là on a moins d'avis préconçus et arrêtés.
Qui est coupable, qui est victime, c'est la question qu'on se pose. Voilà. Pendant tout le film, on va écouter tout de suite un deuxième extrait.
Venez près de moi. Votre mère ne vous a jamais transmis de bijoux?
Ma mère n'avait aucun bijou.
Oh, je sais que certains protestants refusent les bijoux. C'est leur donner trop d'importance. Je la tiens de ma mère. Comme ça, je resterai toujours près de vous.
Est-ce que vous m'aimeriez si j'étais fille de lingère?
C'est parce que vous avez beaucoup d'imagination que vous êtes une si précieuse lectrice.
Nelly qui joue à merveille son rôle de Rose et Madame de Longueville, donc interprétée par Sabine Azéma, qui se prend d'affection pour elle de plus en plus. Il y a même un lien quasi filial qui s'instaure entre les deux femmes. Un mot, Aurélie Ajan, sur Sabine Azéma, formidable dans ce rôle de grande bourgeoise. Alors, elle aussi, traversée par des ambivalences, en apparence rigide, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va le comprendre, c'est la première fois que vous tourniez avec elle.
Oui, c'est la première fois. C'était, j'allais dire un rêve d'enfant, pas du tout, mais enfin un rêve tout court. Et puis, un grand rêve. Oui, j'adore cette actrice, absolument. Et donc, j'ai trouvé que c'était parfait, quoi, pour ce rôle-là, justement, parce que le personnage peut paraître un peu rigide, alors que Sabine Azéma apporte quelque chose quand même de très doux, de très charmant, de très spirituel, dans le sens d'avoir de l'esprit, quoi, même de gay. Et donc, elle compose comme ça un personnage beaucoup plus complexe là que ce qu'on pourrait penser sur le papier. Enfin, je trouvais qu'elle était idéale.
Elle apporte énormément de nuances à ce personnage. Et pour vous, Maud Villers et Laurent Poitrenaud, donner la réplique à Sabine Azéma, c'était un rêve d'acteur.
C'est un luxe, c'est du caviar de jouer avec elle. Elle a un tel amusement, elle invente beaucoup de choses, elle cherche, il y a tout d'un coup plein de petits chemins comme ça, plein de petits possibles qui s'ouvraient en jouant avec elle. C'était Ça, c'est merveilleux.
Non, moi, je me souviens de lui avoir dit, je vous vois encore Sabine Azéma, parce que quand même, c'est quelqu'un qu'on a vu dans beaucoup de films.
Ouais.
Et quand même, je disais, mais Sabine, mais comment, on a l'impression que vous avez démarré le cinéma il y a 3 mois, quoi. C'est-à-dire que vous avez le même émerveillement que, qu'on a quand on débarque sur un tournage. Et elle est juste hallucinante du jeu, de vouloir, est-ce qu'on pourra la refaire, alors qu'Aurélia est plutôt d'accord, alors qu'Aurélia est très dure, quand même, et quand elle a ce qu'elle veut, elle a ce qu'elle veut. Mais non, mais Sabine disait, oh, mais j'aimerais bien la refaire. Enfin, non, elle est assez, c'est merveilleux, quoi. Enfin, c'est un modèle. On espérait tous être comme ça. Voilà.
Et Aurélia, vous avez tout de suite pensé à elle pour le personnage?
Oui, j'ai tout de suite pensé à elle.
Vous l'avez écrit pour elle?
Je l'ai pas écrit pour elle. Non, je me suis un peu interdit de penser à des acteurs en écrivant. Bon, je me suis pas interdit de rêver, mais en tout cas pas de projeter trop. Et puis, oui, c'était Sabine Azéma.
C'était Sabine Azéma. Aurélia Georges, en 2014, vous avez réalisé un documentaire intitulé « Le cinéma se porte bien », un plaidoyer pour la diversité du cinéma français, écosystème unique au monde, dans le contexte difficile qu'on connaît aujourd'hui. Vous êtes comment? Vous êtes inquiète pour l'avenir du cinéma indépendant?
C'est un film que j'ai co-réalisé. Nous étions 4 co-réalisateurs. Nous interviewions des cinéastes, des producteurs français, tout un tas de gens très intéressants qui nous parlaient de l'histoire de la diffusion des films et de l'histoire de la production des films en France. Et c'était en 2014. Et c'est vrai que la situation a encore changé. Oui, c'est vrai que là, je dois avouer que je trouve ça un peu triste qu'on ait pu si peu aller au cinéma depuis un an. Si je creuse un peu, je suis même peut-être un peu en colère, parce que peut-être qu'il y aurait eu d'autres manières de faire. Et là, il y a énormément de films qui attendent leur sortie ou qui sont sortis, qui ont été bousculés, qui se sont fait une concurrence encore plus rude que d'habitude, les uns aux autres. Et c'est pas juste. C'est injuste pour le spectateur, c'est injuste pour les cinéastes, pour les films. Donc oui, non, ça m'inspire plutôt de la colère, oui.
Et vous, Maud Villers, je rappelle que vous avez beaucoup joué au théâtre, que le cinéma, que le grand public vous a découverte au cinéma en 2013 dans 2 automnes et 3 hivers de Sébastien Bette-Bédé, et Perdrix, évidemment, en 2019 d'Erwan Leduc, une comédie romantique décalée, acclamée à la quinzaine des réalisateurs à Cannes en 2019. Comment vous voyez l'avenir maintenant?
On a besoin de zones de rêverie et la communauté des spectateurs de cinéma en est une qui me paraît absolument belle, si ce n'est nécessaire. On a besoin de se perdre. Un film, on se perd dans la contemplation d'un film et on se perd avec du confort. Donc c'est une zone qui me paraît même politiquement très intéressante. Plutôt que d'avoir des réponses à tout, l'art pose des questions ouvertes et rencontre de la complexité des relations et des êtres humains. Et en ce sens, en tout cas, moi, j'en ai besoin.
Dernier mot, Laurent Poitrenaud. Vous avez joué, vous aussi, de nombreux rôles au théâtre et au cinéma. On vous a vu dernièrement dans le dernier film d'Olivier Assayas, Double Vie, en 2019. Quel regard vous portez sur cette période si particulière?
Alors moi, vous savez, c'est très étrange. J'ai jamais fait autant de cinéma que pendant la période du Covid. Donc voilà, le cinéma a voulu de moi. J'ai fait 8 films. Enfin, quand je dis j'ai fait 8 films, j'ai pas fait... Voilà, j'étais toujours invité, 2-3 jours. Donc Aurélia Georges, merveilleux projet. Donc j'ai envie de dire, moi, pour moi, le cinéma se porte très bien. Donc je me dis, s'il se porte très bien pour moi, c'est qu'il doit se porter très bien pour d'autres aussi. Donc il y a de l'avenir.
Et il y a de l'avenir, on va terminer sur cette note optimiste. La place du nôtre en compétition officielle ici au Festival de Locarno et qui sort le 26 janvier en salle, 26 janvier 2022 évidemment. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés ce soir pour nous en parler. Un monde nouveau, c'est toute une équipe. Gaëtan Colli à la réalisation, Marie Mougin et Mathias Volant à la programmation et préparation de l'émission. Sans oublier Lily Cornillac et Anaïs Dinarc à la technique ce soir. Marco Polina, un grand merci aux équipes techniques de la RSI, la radio-télévision suisse-italienne qui nous accueille dans ce studio encore ce soir à l'Institut Santa Caterina. Un grand merci à toutes les équipes du Festival de Locarno pour leur accueil, et en particulier à Chloé Lorenzi. Un monde nouveau à Locarno, c'est terminé. On se retrouve demain à Paris, à la Maison de la Radio et de la Musique, avec Navi Radjou et la chanteuse November Ultra.